Encore tellement de choses à dire avant de quitter cette plaine de Jisraël, d'Esdrelon. On ne peut pas être complet, c'est pas possible. Mais quand même, vous voyez, on a encore un peu de temps. Là. Le soleil se couche à l'ouest derrière le Carmel. La plus belle lumière, c'est avant le coucher du soleil. Et on rejoint du regard maintenant, si on regarde en face de nous, là-bas, la plaine de Harod qui est à nos pieds. Et vous vous rappelez, quand on est arrivé en Galilée, on a commencé par lire les récits de Gédéon. La guerre contre les Madianites qui se passe autour de la colline où nous sommes maintenant. Et de cette colline, nous voyons très bien la ville de Jisraël, qui reçoit son nom de la grande plaine de Jisraël, qui fut la capitale secondaire du royaume du Nord. Hein, tandis qu'à Jérusalem, la dynastie de Juda est assez suivie. Bah. Ici, c'est une succession d'usurpateurs, etc. C'est très sauvage. Et alors, lorsque vint au pouvoir la dynastie de Omri et de Akab, alors Omri a déménagé la capitale du royaume du Nord, qui était auparavant à Tirsa, après avoir été à Sichem, et il a déménagé à Samarie. On ne passera pas par la Samarie. Mais au temps où Samarie était la capitale du royaume du Nord, eh bien, il y avait une capitale secondaire qui était la ville de Jisraël, et que nous apercevrons là très bien. Et là où se tient de ligne partage des eaux entre la dépression du Jourdain, là-bas, qui est à l'est, et puis le terrain qui s'abaisse de l'autre côté en direction de l'ouest vers la Méditerranée. Alors on va lire un récit là qui s'impose à nous, qui est très important, le récit de la ville de Naboth. Et on va voir déjà surgir un personnage que nous allons rencontrer encore beaucoup mieux demain et que nous avons déjà rencontré au Sinaï, le prophète Élie. Lisons un peu cette histoire de la ville de Naboth et de la sinistre Jézabel que vous connaissez au moins par le théâtre classique. Alors nous sommes ici à l'emplacement même de la ville célèbre dans la ville de Jisraël, Esdrelon si vous voulez, qui porte le nom de toute cette plaine que nous contemplons, de Jisraël. Et regardez, c'était la capitale secondaire du royaume du Nord après le schisme quand Samarie était la capitale principale. Et regardez la situation topographique. Oui, le relief de la Judée-Samarie qu'on a parcouru, en général, est nord-sud. Et ici, en Galilée, au contraire, le relief est est-ouest. Mais là, il y a comme une espèce de dos d'âne, vous voyez, entre la dépression du Jourdain, qui est là-bas, et puis la Méditerranée, qui est de l'autre côté. Et alors, cette ligne, il y a une route nord-sud qui la suit, en gros, qu'on va souvent employer. Et alors ici, même dans cette plaine de Jisraël, vous avez ce même dos d'âne. Et la ville de Jisraël, sur laquelle nous sommes, la vue s'étend admirablement depuis la Méditerranée. On voit le soleil qui se couche là-bas derrière le Carmel. Et puis de l'autre côté, on aperçoit par-delà la dépression du Jourdain, dans la trouée de Beth-Shan, on aperçoit les monts de Galaad. On ne peut pas trouver mieux pour une capitale. Alors ici, nous dominons la partie qui s'en va en direction du sud-est de cette plaine d'Esdrelon, par la montagne autour de laquelle se déroule le combat de Josué, la colline de Morée, et là, en face de nous. Et puis, quand nous regardons sur la droite, nous avons le paysage qui s'abaisse là pour rejoindre la vallée du Jourdain. Le mont Galboa qui est là étant à la charnière entre la vallée du Jourdain et puis la plaine de Jisraël, la plaine d'Esdrelon. Vous savez que dans des époques géologiques reculées, on n'en est pas plus, la mer morte, le lac de Galilée et toute une partie de la plaine d'Esdrelon formaient une mer intérieure unique. Et tout à l'heure, on va remonter là, en direction de Afoula et vous allez retrouver encore la plaque niveau de la mer. Et là-bas, on descend en dessous du niveau de la mer, rejoint la plaine du Jourdain. Le lac est à moins 200 mètres et ça continue à descendre vers la mer Morte qui est à moins 400 mètres. Donc, alors, quels sont les récits qui s'inscrivent dans le paysage? Il y en a un célèbre. C'est la vigne de Naboth. Je vous lis des textes, il y a des blocs. Les textes sont intéressants par le simple fait qu'on les lit à l'endroit où ça s'est passé. Mais il y a un effort que je ne peux pas faire à votre place, c'est de les ranger dans un certain ordre chronologique. Vous avez des tables de matière, vous avez des atlas, vous avez des tout ça. Et c'est un travail qu'il faut faire vous-même. Et alors, sans même que vous en rendiez compte, vous verrez se dégager des lignes de force, de convergence, un progrès. Et sans même que vous le cherchiez, vous verrez que ce progrès, c'est le progrès de l'humanité en marche, c'est le progrès personnel. Vous trouverez une carte qui vous aidera à déchiffrer la complexité de votre destinée personnelle. Bon, alors j'ai lu la ville de Naboth qui se trouve au premier livre des Rois, chapitre 21. Naboth de Jisraël, selon, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie, qui avait une résidence secondaire quelque part par ici. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne,
qu'elle me sert de jardin potager. Elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure. Ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Mais Naboth dit à Akab, Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères. Alors Akab s'en alla chez lui sombre et irrité. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Les symptômes de la mauvaise humeur. Sa femme Jézabel. Alors Jézabel, là, c'est une sinistre Jézabel que vous connaissez au moins par le théâtre classique. Était la fille du roi Itobaal de Tyr. Une phénicienne qui avait une hiérarchie de valeurs assez différente. Elle introduisait à la cour du roi du Nord des prêtres de Baal. Sa femme Jézabel lui dit « Pourquoi ton esprit est-il chagrin ?» Alors il répond « Bah, Naboth ne veut pas me donner sa vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Vraiment, tu fais un joli roi sur Israël. Lève-toi, mange, que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth de Jisréel. » Alors ici, vous voyez, on a affaire à... C'est pas du tout la Bible. Il faut se rappeler ce que c'est que le roi dans la Bible. Et se reporter encore au Deutéronome, comme on l'a fait tout à l'heure pour la guerre sainte. Les rois, chapitre 16 du Deutéronome. Lorsque tu seras arrivé au pays que le Seigneur te donne, si tu veux un roi, comme toutes les nations d'alentour, c'est un roi choisi par Dieu, ton Dieu, que tu devras établir sur toi. Quelqu'un d'entre tes frères qui n'a pas multiplié ses chevaux, rappelez l'histoire de Salomon, ce qui a perdu Salomon, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour accroître sa cavalerie, vous ne retournerez jamais par ce chemin, dit Dieu, qui ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur, qui ne multiplie pas à l'excès son argent et son or, et lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette loi, sous la dictée des prêtres lévites, et la loi ne le quittera jamais. Il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu en gardant toutes les paroles de cette loi ainsi que ses règles pour les mettre en pratique. Il évitera de s'enorgueillir au-dessus de ses frères, il ne s'écartera de ses commandements ni à droite ni à gauche. Le roi n'a pour raison d'être que de faire régner la justice et la loi. Et alors s'il contrevient à la loi, surgit le prophète. C'est ce qu'on va voir ici. Alors la sinistre Jézabel organise un faux procès sous doigt de faux témoins qui accusent Naboth des pires iniquités. Naboth est conduit en dehors de la ville et puis il est lapidé et il meurt. Quant à Akab, alors lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth, de Jisréel, qui n'a pas voulu te donner pour l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Alors il en prit possession. C'est alors que surgit le prophète Élie. Dieu dit à Élie le Tishbite, lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Tu lui diras, tu as assassiné et de plus tu usurpes. Ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Alors cette prophétie s'accomplit plus tard, lorsque Élisée a remplacé le prophète Élie. Et la suite de l'histoire, si vous voulez la trouver, il faut la chercher au deuxième livre des Rois, chapitre 9. Et on est tout à fait dans le décor pour le lire. Alors nous contemplons ici la vallée de Harod. Hein. Et alors on a une vue qui s'étend jusque là-bas en Galaad, par-delà la vallée du Jourdain. Or, en Galaad, il y a une ville qui s'appelle Ramoth de Galaad, qui est disputée entre les rois du Nord et puis le roi d'Aram. Alors à cette époque-là, les armées du roi du Nord sont là-bas en Galaad. Et le chef de l'armée, là, c'est un certain Jéhu. Et vous allez voir ce qui se passe. Le prophète Élisée appela un des frères prophètes et lui dit, Saint-Hérin, prends cette fiole d'huile et va à Ramoth de Galaad. Tu chercheras à voir Jéhu, fils de Nimshi, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la répandras sur sa tête en disant, ainsi parle le Seigneur, je t'ai oint comme roi d'Israël. Puis ouvre la porte et sauve-toi sans tarder. Sur la même partie, lorsqu'il arriva, les chefs de l'armée étaient assis ensemble. C'était le messe des officiers. Il dit, j'envoie te dire, chef, auquel d'entre nous, à toi. Alors Jéhu se leva, le jeune homme entra dans la maison. Le jeune homme lui versa l'huile sur la tête et lui dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, je t'ai oint comme roi sur le peuple de Dieu sur Israël, et tu vengeras le sang de mes serviteurs les prophètes, de tous les serviteurs de Dieu sur Jézabel et sur toute la famille d'Akab. Quant à Jézabel, les chiens la dévoreront dans le champ de Jisréel et personne ne l'enterrera. Puis il ouvrit la porte et s'enfuit. Alors Jéhu revient en messe des officiers, tout va bien, pourquoi ce cinglé est-il venu à toi? Ici le mot c'est Meshuga. Pourquoi ce cinglé est-il venu à toi? Ah bon, oh, il donne une réponse évasive. Explique-toi. Alors il explique. Et puis on voit roi Jéhu. Alors on le voit arriver ici. Regardez bien par là, du côté de Galaad, et vous allez le voir arriver. Vous êtes à la place, pas loin du moins, où était le guetteur sur la tour, ici à Jisraël. Alors le guetteur, et à ce moment-là, on était en assez bon terme entre le royaume du sud et le royaume du nord. Et le roi du sud était venu ici, dans cette résidence. Là, c'est le climat est merveilleux, paradisiaque. Il y avait des palais, c'était tout à fait confortable. Et alors, on venait passer ses vacances dans cette belle résidence secondaire. Et le roi de Juda était là. Le roi Joram était revenu à Israël pour faire soigner ses blessures que les Aramiens lui avaient infligées. Et le roi Ocosias de Juda était aussi chez lui, comme ça. Alors le guetteur, nous sommes tout prêts, posté sur la tour de Israël, vit la troupe de Jéhu qui arrivait. Et en sort, je vois une troupe. Joram ordonna qu'on prenne un cavalier qu'on envoie devant de ces gens et qu'il demande « Cela va-t-il bien ?» Le cavalier alla devant de Jéhu et demanda « Ainsi parle le roi, cela va-t-il bien ?» « Que t'importe si ça va bien, pour dire Jéhu, passe derrière. » Le guetteur annonça, le messager les a rejoints et ne revient pas. Le roi envoya un second cavalier. Celui-ci le rejoignit et demanda « Ainsi parle le roi, cela va-t-il bien ?»« Que t'importe si ça va bien, répondit Jéhu, passe derrière moi. » Le guetteur annonça, il les a rejoints et ne revient pas. La manière de conduire est celle de Jéhu, fils de Nimshi, il conduit comme un fou. Il y avait déjà des chauffards à cette époque-là. Joram dit « Qu'en a-t-elle ?» Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Ocosias, roi de Juda, partirent chacun sur son char au devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Naboth de Jisraël. Donc c'est dans cette direction-là. Si vous regardez par là, vous voyez comment l'endroit où se trouvait le champ en question. Cela va-t-il bien ? Quelle question ! Tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges, Joram tourne la bride et s'enfuit en disant à Ocosias : Trahison, Ocosias. Jéhu avait bandé son arc, il atteignit Joram entre les épaules et la flèche traversa le cœur du roi qui s'affaissa sur son char. Alors Jéhu dit à son écuyer : Enlève-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jisraël. Souviens-toi, lorsque moi et toi nous étions tous deux en char derrière son père Akab, Dieu a prononcé contre lui cette sentence. Je l'assure, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, oracle de Dieu. Je te rendrai la pareille dans ce champ même, oracle de Dieu. Enlève-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de Dieu. Quant au Ocosias, roi de Juda, il vit cela, il prit la fuite sur la route de Beit Hagan. Mais Jéhu le poursuivit, ordonna, lui aussi frappe-le. On le blessa sur son char à la montée de Gour, qui est près de Yibléham, et il se réfugia à Megiddo, où il mourut. Ses serviteurs le portèrent en char à Jérusalem et l'ensevelirent dans son tombeau dans la cité de David. Jéhu rentra à Israël, et Jézabel la prit. Elle se farda les yeux, s'orna la tête et se mit à la fenêtre. Et lorsque Jéhu franchit la porte, elle dit, « Cela va-t-il bien, assassin ?» Jéhu leva la tête vers la fenêtre et dit, « Qui est avec moi ? Qui ?» Les deux ou trois eunuques se penchèrent vers lui. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent en bas, son sang éclaboussa le mur et les chevaux, et Jéhu lui passa sur le corps. Il entra, mangea et but, puis il ordonna, « Occupez-vous de cette maudite, et donnez-lui la sépulture, car elle est fille de roi. » On alla pour l'ensevelir, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les mains. On revint dans la forme de Jéhu qui dit, c'est la parole de Dieu qu'il a prononcée par le ministère de son serviteur Élie le Tishbite. Dans le champ de Yisraël, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. Le cadavre de Jézabel sera comme du fumier pendu dans la campagne, en sorte qu'on ne pourra même pas dire c'est Jézabel. Et alors après vous lirez, parce que c'était un bain de sang. Et alors Jéhu dépasse de beaucoup la mission qu'il a reçue, et par la suite, dans le prophète Osée, il sera condamné pour sa violence. Il y a un tas de jeux de mots entre Israël et Jisraël au début du livre de Osée. Mais c'est pas simple, il y a des gens qui reçoivent une mission, qui outrepassent leur pouvoir, et puis ça finit par la violence, par des bains de sang. Et alors là aussi, Dieu est attentif. Alors, Osée se marie avec Gomer, fille de Diblaïm, qui conçut et enfanta un fils, et Dieu lui dit, appelle-le du nom de Israël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Il adviendra en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Israël. Toujours le Dieu vivant aux prises avec des hommes de chair et de sang. Mais à mon avis, ça vaut tous les manuels de morale, et, voir des situations, et puis voir comment ça tourne, et puis voir quand... Oui, c'est plus précieux que des traités abstraits de morale qui donnent des principes, des idéologies. Ici, on a une mémoire d'éternité, et puis on voit les actes que mettent les hommes, les conséquences que ça entraîne. Et on enrichit notre mémoire de tout cela pour éduquer ce qu'on appelle dans la morale, dans la somme théologique de saint Thomas, la prudence, enfin, à la charnière des vertus intellectuelles et des vertus morales, la lumière qui est appelée à, pour que la liberté s'exerce dans la lucidité. Ces récits sauvages, on peut se demander si ça ne nous guérit pas. Des méthodes font comme d'électrochocs, ça bouleverse toutes nos hiérarchies bien établies, ça remet tout en question et ça nous force alors d'entrer d'une façon plus réaliste dans le dialogue avec le Dieu vivant et puis aussi de rencontrer des hommes de chair et de sang qui sont aussi aux prises avec le même Dieu vivant. Il faut quelquefois des électrochocs, on est trop bien, trop rassuré dans nos petites, notre hiérarchie des valeurs comme ça. C'est bon d'être quelquefois un peu bousculé. Ça reflète peut-être plus la complexité de la vie que beaucoup de spéculations, de traités. Enfin, écoutez, en tout cas, moi, c'est pas moi qui dis, c'est l'Église qui, tout au long des siècles, dit qu'il faut lire la Bible. Il y a eu des époques où on s'en est méfié. Hein. C'est pas une espèce de traumatisme qui a eu lieu après. Le père Congar disait que il faut qu'il y ait une tension, c'est normal, entre la périphérie et le centre. C'est comme à l'armée, il y a les corps francs et puis il y a ceux qui sont à l'arrière. Et bon, alors, il y a, comme dans une auto, il y a des freins, puis il y a l'accélérateur. C'est bon qu'il y ait une tension. Mais ce qui est terrible, c'est quand il y a une déchirure. Parce que c'est comme toute une partie de la vérité qui est rentrée à l'extérieur, et il faut quelquefois des siècles pour la réintégrer. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Il disait, il faut aimer tellement la vérité qu'on aille chercher les moindres parcelles jusqu'à la frontière de l'erreur. Mais ceci dit, il ne faut jamais qu'il y ait de rupture. Et c'est pour ça que, remarquez, le catéchisme du Concile de Trente est plein de sèves bibliques. On ne peut pas reprocher au catéchisme du Concile de Trente d'être un catéchisme desséché, comme certains qui sont venus par la suite. Mais ceci dit, moi je ne sais pas, quand j'ai fait mes études dans les années 40, vraiment, c'était de l'apologétique pour se défendre contre tous ces monstres empaillés maintenant, pas des modernistes de l'époque, il fallait répondre à tout ça. Mais alors on soupçonnait que la Bible était intéressante par des gens qui faisaient des cours bibliques, le père Bouillet dont j'ai parlé. Dans ce renouveau biblique, le père Congar, je rappelle ses cours, il revenait de captivité et il nous a fait un cours d'ecclésiologie à partir de, avec la révélation plein de ces bibliques. Et c'est là peut-être que j'ai commencé à soupçonner que c'est vraiment intéressant. Mais c'était pas avec les cours d'apologétique ou bien les mécaniciens biblistes qui vous démontaient la Bible en essayant simplement de mettre les textes en ordre chronologique. C'est comme si tout l'effort de mise en place dans la Bible telle qu'elle est maintenant n'avait pas été inspiré lui aussi. Il n'avait pas une valeur pédagogique. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas exprimer. Ce sont des portes qui sont déjà tellement enfoncées maintenant que seuls des vieux comme moi continuent à les enfoncer.
Il reste qu'il y a beaucoup de vrais problèmes pour les chrétiens vis-à-vis de l'Ancien Testament et on ne peut pas les traiter simplement. Pour ceux qui voudraient approfondir, qui voudraient vaincre leurs inhibitions par rapport à cette littérature, je ne saurais trop leur conseiller la lecture d'un petit livre qui est paru aux éditions du Seuil à Paris. En 1987 d'un père jésuite qui s'appelle Beauchamp, le père Paul Beauchamp. Et ce petit bouquin là s'appelle « Parler d'écriture sainte ». Comment est-ce qu'on peut parler d'écriture sainte quand tous ces récits là, que qu'on rencontre quand on feuillette la Bible comme nous l'avons fait. Et je crois que je n'ai pas trouvé de meilleure approche actuelle de la littérature biblique que ce petit fascicule qui est une excellente introduction.
Il reste que rien ne remplacera jamais la familiarité avec les textes, la lecture cursive. Oui, le moyen le plus normal d'entrer dans la culture biblique pour un chrétien, c'est la liturgie des heures. Et de lire chaque jour dans l'aujourd'hui de Dieu ce que l'Église propose, surtout dans l'office de lecture. Vous avez l'occasion comme ça de lire la Bible. En ce moment, ce que j'aime bien dans la tradition romaine, c'est que justement, elle nous fait lire tous ces livres que nous avons feuilletés, le livre des Juges, le livre de Josué, tout aussi bien que les épîtres les plus sublimes du Nouveau Testament. On dirait qu'elle prend bien un plaisir, l'Église, à nous faire retomber comme ça dans le temps ordinaire, alors qu'on est dans les sublimités de la fête de la Pentecôte ou de la fête de l'Épiphanie. Pof, on retombe tout d'un coup dans le temps ordinaire. Et puis on est invité à lire
toute cette littérature biblique. Et le mieux, c'est de partir de là, cette grande avenue que l'Église nous trace, qu'elle nous présente tous les jours dans la tradition vivante, et puis à partir de ces lectures que nous propose la tradition vivante de l'Église, eh bien, on se reporte aux éditions critiques dont nous disposons maintenant, et dont les notes sont tellement éclairantes, la Bible de Jérusalem, et puis la Tobe, la Bible œcuménique, qui profite des travaux qu'a commencé la Bible de Jérusalem, et les notes sont extrêmement éclairantes et permettent de faire un travail plus approfondi. Mais il faut commencer par le commencement, sans ça on se noie, on se lasse, et puis on laisse tomber. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter la parole de Dieu. Et avant d'aller chercher ailleurs, prenez ce que l'Église vous propose dans sa tradition vivante. Et il y a souvent d'étranges coïncidences entre ce que nous vivons, entre l'existence telle qu'elle se présente, et puis ce que l'Église, dans sa tradition vivante, nous propose dans les lectures du jour. Tenez, il y a la liturgie des heures, là, est en 4 volumes en français. Et au début du premier tome de la liturgie des heures, vous avez un document là, qui vous montrera comment il y a une manière traditionnelle de lire la Bible en christianisme. Avant d'aller chercher ailleurs, ben, prenez d'abord ça. Vous ne perdez pas trop dans toutes les rubriques. Mais au début, vous avez comment on lit la Bible de la façon la plus vivante et la plus traditionnelle dans l'Église, dans l'aujourd'hui de Dieu.
Aujourd'hui, puissiez-vous